Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous allons évoquer un sujet qui est d'actualité depuis des années et qui est même devenu central avec la crise sanitaire que l'on connaît. C'est la situation du monde hospitalier, le manque de moyens, de personnel et puis la fermeture de lits continue de toucher de plein fouet les patients et notamment ceux atteints de maladies neurologiques. Et cette thématique justement, c'est le sujet de la tribune écrit entre autres par Jean-Philippe Plançon, président de l'Association française contre les neuropathies périphériques. Et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci beaucoup d'être avec nous pour comprendre d'abord le contexte de quel constat par cette tribune.
Il s'agit d'une tribune collective qui a été signée par une dizaine d'associations de patients qui œuvrent toutes dans le domaine de la neurologie. Et effectivement, le sujet central de cette tribune est aujourd'hui la fermeture des lits dans les services de neurologie, mais pas uniquement dans les services de neurologie, puisque l'hôpital public aujourd'hui est largement impacté par la fermeture des lits, qui sont à la fois en lien avec une politique sanitaire assez générale et surtout qui est liée à un manque de personnel. Aujourd'hui, très concrètement, vous avez des centaines de lits qui sont fermés faute de personnel paramédicaux la plupart du temps. Parfois, ce sont des médecins, bien souvent, ce sont des infirmières qui font défaut dans les services.
Alors, pourquoi ce sont les maladies neurologiques les plus touchées par tout cela ?
Alors, difficile de dire si les maladies neurologiques sont plus touchées que les autres. En réalité, ce qu'on sait, c'est que les malades atteints de maladies neurologiques sont souvent des malades qui sont lourdement invalidés, qui nécessitent des soins, qui mobilisent des ressources humaines importantes pour se vêtir, pour se laver, pour se nourrir, pour maintenir une hygiène corporelle régulière. Ça mobilise beaucoup de personnel. Évidemment, c'est aujourd'hui ce qui fait défaut dans les hôpitaux et évidemment, c'est aussi ce qui se voit du côté de la neurologie. Si vous prenez des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres qui dans des stades très avancés, induisent une perte d'autonomie majeure, eh bien, évidemment, vous avez besoin de personnel et malheureusement, ce personnel aujourd'hui fait défaut.
Il y a aussi cette impression qui persiste que la France, finalement, peine à prendre en compte ce genre de pathologie. C'est une réalité, selon vous ?
Je ne crois pas, d'une manière générale. Je crois que notre système de santé reste tourné vers les malades, qui sont nombreux, vers leurs besoins. Néanmoins, vraisemblablement, ce qui manque aujourd'hui, c'est une vraie politique sanitaire qui colle à la réalité de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien conscient que des millions de malades sont dépendants, que ces malades ont besoin de soins. On a à la fois le système hospitalier qui fait la part des choses, à la fois le système extra-hospitalier, la ville qui prend sa part. Les deux ne se rencontrent pas toujours, malheureusement. C'est aujourd'hui ce qui fait défaut, puisqu'on sait que, notamment à l'hôpital, vous avez une expertise qu'on ne trouve pas ailleurs. Les politiques sanitaires, je crois, prennent en compte les besoins des patients de manière insuffisante, et on le voit aujourd'hui. Mais ce qui manque en réalité aujourd'hui, ce ne sont pas les structures, ce sont les gens à mettre dans les structures. Et ça, c'est un autre sujet.
Alors, quand vous parlez des gens, de toutes ces professions, finalement, pourquoi ne sont-ils plus là ?
D'une manière générale, on sait aujourd'hui que la vie d'un personnel paramédical, je peux prendre l'exemple d'un infirmier et d'une infirmière, est extrêmement difficile. Les conditions de travail sont à l'hôpital difficiles pour tous. Dans des services qui ont des patients très dépendants, c'est encore plus difficile. Lorsque vous avez une infirmière pour 20 patients ou 30 patients dépendants, c'est quelque chose qui est assez inacceptable en termes de charge de travail, en termes de charge psychique, parce que la dépendance ne se résume pas seulement à quelque chose de matériel. Un soin, c'est quelque chose qui prend en compte la dimension globale du malade et d'abord sa propre identité. Donc ça nécessite du temps. On ne soigne pas les gens comme on visse un boulon à la chaîne pour faire une voiture. Et ce qui manque aujourd'hui, eh bien, c'est de donner l'envie à ces personnels de rester à l'hôpital, de revenir à l'hôpital. Et là, pour le coup, ça nécessite une véritable impulsion politique qui, me semble-t-il, là encore, aujourd'hui, fait vraiment défaut.
Et si on doit dresser un bilan, quelle est la situation concrète des services de neurologie en France aujourd'hui ?
On ne le sait pas. On ne connaît pas la situation réelle des services de neurologie en France. En tout cas, le ministère de la Santé, à ma connaissance, ne s'est pas aujourd'hui attelé à, à une comptabilisation exhaustive de la fermeture des lits. Lorsque vous interrogez certains chefs de service, quelques-uns vous évoquent avec vous une fermeture à hauteur de 60% des lits, d'autres 20% des lits. La PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, admet une fermeture de près de 20% de ces lits. C'est assez difficile et assez déconcertant de ne pas avoir de chiffres précis alors que nous sommes dans un pays plutôt centralisateur. Alors, je ne ferai pas de procès d'intention, mais en fait, est-ce que c'est une volonté réelle de ne pas compter pour ne pas effrayer? Est-ce que c'est un manque d'outils? Je ne crois pas. Donc voilà, c'est en tout cas aujourd'hui, personne ne sait combien de lits précisément sont fermés. Ce qu'on constate, nous, du côté des malades, c'est que les remontées sont catastrophiques, c'est que des malades de plus en plus fréquemment sont maintenus à domicile alors que manifestement ils seraient bien mieux à l'hôpital avec des soins adaptés. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de vouloir maintenir à tout prix à l'hôpital alors qu'on peut prendre de manière externalisée, c'est pas la question, mais vous avez une expertise à l'hôpital qui ne se trouve pas ailleurs, et aujourd'hui, il faut mettre le moyen pour que les personnels y soient. Il faut repartir du statut des professionnels de santé. Aujourd'hui, vous aviez récemment une petite annonce pour un hôpital de Nord-Bretagne. Cette petite annonce indiquait que l'hôpital recrutait un agent de sécurité pour 1 980 euros par mois et une infirmière diplômée d'État pour 1 600 euros par mois. Je crois qu'on a l'illustration aujourd'hui de ce qu'est, en tout cas d'un point de vue matériel, purement matériel, de ce qu'est la place et la prise en compte de ces personnels de santé qui sont des techniciens hautement formés aujourd'hui. Il y a plusieurs volets. C'est évidemment une revalorisation très concrète en termes financiers. Et puis surtout, il faut offrir un environnement de travail suffisamment satisfaisant à ces personnels pour qu'ils n'aient pas envie de partir. Enfin, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on se retrouve face à cette situation alors que ça fait 20 ans qu'on sait très bien que bah, que les services, dans des services de soins, le travail est pénible, le travail est difficile. Et aujourd'hui, ça, c'est assez incroyable de se dire qu'on n'est pas capable d'ouvrir des lits de médecine, de chirurgie ou autre, de soins, de suite de soins, parce qu'on n'a pas de personnel à mettre dans les services. C'est complètement ubuesque.
Alors, au vu de ce que vous me dites, je vais me faire évidemment l'avocat du diable en posant cette question, mais faut-il finalement tout privatiser? Où l'hôpital public a encore un rôle à jouer?
En réalité, je crois que ce qui reste à construire, c'est une véritable liaison ville-hôpital. On en parle depuis des années, mais enfin, ça reste vraiment à construire. On peut aujourd'hui mettre en place un suivi à domicile de manière vraiment très satisfaisante, mais pas pour tout et pas pour tout le monde, et certainement pas pour des soins qui sont des soins qui nécessitent une expertise et un temps parfois que ne peut pas consacrer la médecine de ville. Si vous prenez l'exemple d'une infirmière libérale, eh bien, vous ne pouvez pas demander à une infirmière libérale de passer une heure et demie le matin à s'occuper d'un malade. Vous avez également besoin de personnels qui sont des aides-soignants ou des aides ménagères. C'est pareil, il faut leur offrir des conditions de travail, adéquates. En tout cas, la liaison ville-hôpital aujourd'hui reste, à mon avis, à construire. La place de l'hôpital peut-être est à redéfinir, à accompagner, mais une chose est certaine. De l'hôpital vient l'innovation, vient la formation, vient la prise de risque. Aujourd'hui, ce n'est pas en ville que se fait cette innovation et ces avancées substantielles pour aujourd'hui la médecine, la prise en charge et le soin.
Alors, on a vu aussi les conséquences de la crise sanitaire sur les patients atteints de maladies neurologiques. Et pourtant, on a l'impression que la prise de conscience politique, sociétale n'a pas eu lieu. Comment l'expliquez-vous?
C'est vrai, on aurait pu croire que la période Covid, et c'est ce qu'elle a fait sur une certaine période, mettre l'accent sur l'hôpital, sur les besoins de l'hôpital, sur les besoins des personnels. Et on a vu pendant quelques mois des Français applaudir leurs soignants, et puis c'est retombé comme un soufflet. On a eu un Ségur qui a laissé penser que les choses allaient évoluer. En réalité, non. C'est pas tout à fait juste, puisque vous avez une revalorisation salariale qui n'est pas négligeable, qui n'est pas égalitaire, puisque tous les personnels n'ont pas été touchés de la même manière. La prise de conscience n'a pas eu lieu, probablement parce qu'un sujet occulte un autre sujet, probablement parce que le temps politique n'est pas le temps du citoyen et que c'est vraiment dommage parce que nous sommes tous des malades en puissance, que des sujets comme la santé, comme l'éducation, comme la sécurité sont des sujets fondamentaux et qu'on a le sentiment que finalement c'est une actualité légère qui prend le pas sur l'ensemble.
Alors qu'à contrario,
Et à contrario, sur le terrain, les soignants, eux, ont vu dans leur départ leur seul salut finalement.
Alors pour certains, je crois que la prise de conscience ne s'est pas faite comme on l'attendait du côté de nos politiques, mais plutôt du côté des personnels soignants qui finalement, alors qu'on leur en a demandé beaucoup, beaucoup ont travaillé et travaillent déjà, ont accumulé, enfin ça c'est l'histoire de l'hôpital public et ça a toujours été, ont des heures supplémentaires en pagaille. On leur a demandé d'en faire beaucoup, ils l'ont fait, ils se sont sentis utiles très légitimement, et puis finalement, vous n'avez derrière cela rien. Pas de véritable reconnaissance, on continue d'avoir des personnels qu'on va trimballer d'un service à un autre, qu'on va rappeler, et évidemment, personne n'a supporté cette maltraitance, et les soignants désertent peu à peu ce métier. Alors, là encore, vous m'interrogiez sur la répartition de la fermeture des lits en France. On ne la connaît pas véritablement, mais ce qu'on sait, c'est que dans de grandes agglomérations, je prends Paris notamment, les choses sont encore plus difficiles. Lorsque vous gagnez 1 700 € par mois et que vous devez vous loger, c'est compliqué. C'est compliqué à Paris plus qu'ailleurs. Donc la prise de conscience, elle reste à venir et c'est un vrai choix aujourd'hui, un vrai choix politique. Enfin, notre ministre de la Santé récemment... lui semblait satisfait de nous dire que le numerus clausus médical avait été augmenté, qu'on allait former plus d'infirmières, c'est bien, mais est-ce que c'est seulement une question de chiffres? Je ne crois pas. Vous avez aujourd'hui entre 200 et 250 000 infirmiers et infirmières qui ne travaillent pas. Si on ne les attire pas vers l'hôpital, ils ne viendront pas. On pourra en former davantage, on pourra former davantage de soignants si on ne rend pas l'hôpital attractif. Ils n'ont aucune raison de venir. Donc c'est pas uniquement une question de formation, c'est important. Mais ce n'est pas uniquement une question de formation, c'est vraiment une question de qualité d'accueil de ces personnels et pas seulement de manière matérielle. C'est aussi le quotidien de quelqu'un qui travaille, et bien il est fait du temps qu'il passe, dans l'environnement qu'il passe, du regard qu'on porte sur son travail, etc. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas.
Concrètement, quelle solution pourriez-vous préconiser, là comme ça, brûle pour point?
Il faut réellement s'interroger sur la place de l'hôpital public aujourd'hui, sur ce qu'on attend de l'hôpital. Quels sont les soins qu'on peut faire par d'autres soignants? Est-ce à l'hôpital de faire ce que la médecine privée ne fait pas? Je ne crois pas. On demande énormément à l'hôpital, qui est ouvert 24 heures sur 24, et c'est bien normal, c'est du patrimoine commun. Est-ce qu'on peut demander davantage à la médecine de ville? Probablement qu'on peut, me semble-t-il, aller un peu plus loin sur les obligations des uns et des autres, d'accueillir des malades le week-end, même si chacun d'entre nous... avons envie d'avoir une qualité de vie acceptable. Je crois qu'il faut, le quoi qu'il en coûte, que nous connaissons tous, que nous avons tous connu pendant la période Covid, eh bien, doit s'appliquer aussi à des métiers aujourd'hui qui sont fondamentaux. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de personnel pour vous soigner, vous n'aurez plus accès aux soins. Et encore une fois, nous vieillissons tous et nous avons tous, un jour ou l'autre, besoin d'accéder aux soins. Nos politiques ont besoin de l'entendre. Certains en sont conscients. C'est un coût pour la collectivité. Et il est aussi normal que nous sachions où va l'argent de cette collectivité. Probablement que l'hôpital doit aussi continuer une réforme. Je ne suis pas un expert et un hyper technicien de l'administration hospitalière, mais enfin, lorsque vous allez à l'hôpital, que vous voyez tous ces services administratifs, je pense qu'il y a eu des réformes faites ces dernières années. Vous avez dans certains services des conseils qui sont mis en place, des départements, etc., des pôles. Qu'apportent-ils réellement? Est-ce que ce sont des réunions supplémentaires qui sont proposées au personnel? Et est-ce que ça améliore la qualité des soins? Voilà, il y a plein de questions. On doit s'interroger, à mon avis, sur le fonctionnement de l'hôpital, le fonctionnement d'un hôpital. Le but de l'hôpital, c'est de soigner ses malades. Si vous mettez des hommes, des femmes, des administratifs à chaque échelon, vraisemblablement, ça retarde le moyen d'accéder à l'objectif visé. Évidemment, c'est difficile de répondre à votre question. C'est difficile, on sait que le problème est complexe. En tout cas, on a des solutions aujourd'hui pour attirer les personnels. Que ce soit en termes financiers. Si les soignants ont envie de venir à l'hôpital, ils viendront en masse, ils seront plus nombreux, les services sont plus équilibrés, vous aurez des gens qui auront des conditions de travail plus décentes, qui auront des plannings plus équilibrés, etc., etc., etc.
Alors, dernière question, peut-être que votre position de président de l'Association française contre les neuropathies périphériques vous permettra d'avoir plus cette vision, mais quel est le rôle justement des associations là-dedans?
Ah, le rôle des associations de patients est un rôle d'aiguillon. Vous avez dans chaque établissement public, vous avez des représentants d'usagers. Vous avez une grosse association qui s'appelle France Asso Santé, qui en théorie représente l'ensemble des usagers du système de santé. La démocratie sanitaire qui était début des années 2000 affichée aujourd'hui évolue probablement, trop lentement certainement. La voix des patients est encore insuffisamment entendue. La voix des usagers est parfois écoutée, rarement entendue. Enfin, vous avez des outils de mesure qui permettent d'évaluer tel ou tel service, tel ou tel hôpital. Mais enfin, en réalité, écoutons vraiment la voix des patients. Et ça, à mon avis, ça reste à construire. Ça reste à construire encore aujourd'hui. Les usagers sont de plus en plus présents dans des instances publiques. Je prends l'Agence du médicament, encore une fois les hôpitaux publics avec les représentants d'usagers. Ça n'est pas encore pleinement dans la culture, je crois, de toutes les institutions françaises d'accueillir des patients qui, rappelons-le, sont les premiers concernés par les structures dans lesquelles ils évoluent, hein. Un système qui ne fonctionne que pour lui-même n'a aucun intérêt. Un système de santé fonctionne pour les usagers du système de santé et non pas pour l'administration qui administre ce système de santé. C'est peut-être un peu de cela dont il s'agit, c'est de repartir sur des fondamentaux. À quoi servent nos systèmes de santé? Enfin, à quoi servent les systèmes publics que nous avons bâtis en France et en particulier les systèmes de santé? Sont-ils vraiment orientés et dirigés vers la cible visée, c'est-à-dire les usagers? Comment pouvons-nous nous en assurer? Et puis les acteurs que sont les personnels de santé, encore une fois, sont des acteurs essentiels, sans lesquels il ne se passera rien. Il faut aussi les protéger. Voilà, ce sont des hommes, des femmes qui se mettent aussi au service de leurs concitoyens. Pour reprendre l'exemple des infirmières, elles sont depuis belle lurette, ce ne sont plus des bonnes sœurs, ce sont aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont de vrais techniciens, hautement formés. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est terminé. On ne va pas travailler bénévolement lorsqu'on est à l'hôpital. On est un professionnel de santé. Et à ce titre, on doit à la fois être respecté, et le respect passe par des conditions de travail décentes et un salaire décent.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Philippe Plançon, de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, continuez de nous écouter, de nous écrire. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions? Nos réponses.